Les voies de service, mercredi le 18 juillet 2018. Bonjour, ici Daniel Lachance sur les ondes de Canal M et je vous souhaite la bienvenue encore une fois à l'émission Les Voies de service. Notre collègue Isabelle Falardeau est en congé aujourd'hui, donc je serai avec Serge Bradet. Bonjour Serge.
Bonjour Daniel.
Et toujours Jean-Sébastien Laliberté à la régie, à la mise en onde. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour monsieur.
Vous allez bien tout le monde?
Oui!
En cette belle journée d'été. Donc Serge, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
En premier, je vais vous parler de chicane.
Bon, ça commence bien.
Oui. Vous chicanez-vous des fois, Daniel? Tu vas avoir un côté chicaneux, vous, hein?
Je vous souhaite de jamais voir ça.
Oui, une chicane, c'est jamais beau.
Bon hein. Caractère, sauf quand ça va mal.
Oui, ben oui. Alors, c'était dans la presse de dimanche, une chicane de voisin pour une croix gammée.
Oh!
Autour de la Svastika.
OK,
le symbole nazi.
Oui, quand même.
Symbole nazi qui est, que les nazis ont récupéré.
Oui, qui était un autre symbole avant.
Écoutez, avant Jésus-Christ, le symbole nazi. Je vais vous parler de ça. Alors, ensuite, l'histoire de rue, c'était dans la revue L'Itinéraire qui vient de paraître là, il y a une semaine. Et ensuite, à la fin de l'émission, d'école.
On va parler d'école.
D'école. C-O-L-L-S.
Okay.
Testez vos connaissances.
OK.
L'école du jour qu'on appelle. Bon. C'est dans la presse de dimanche. Aussi.
Donc, vous allez mettre nos connaissances à l'épreuve.
Oui, oui, oui.
Bon, on va voir si on est capable de réfléchir encore. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un compositeur québécois, François Dompierre, en première partie. Mm-hmm. Et en deuxième partie, je vais parler un petit peu des musiciens du métro de Montréal.
Mm-hmm.
Et on vous revient tout de suite. Donc, Serge, la Svastika, c'est comme ça qu'on prononce ça?
Svastika, oui, 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 oui. Alors, c'était dans la presse de dimanche, un dossier de Mathieu Perrault. Chicane de voisin pour une croix gammée. Alors, depuis un an, une petite rue privée dans une banlieue de Guelph, en Ontario, est déchirée par une chicane de toponymie. Certains des résidents de la Svastika Trail veulent changer son nom à cause, évidemment, de son association avec le nazisme. Les défenseurs du statu quo font valoir qu'elle a été ainsi nommée dans les années 20, en référence au symbole hindou, donc bien avant la Deuxième Guerre mondiale et bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne.
Mais je suppose qu'on voit le nom de la rue, mais on ne voit pas le symbole quand même. Peut-être un peu moins pire.
Oui, effectivement, on ne voit pas le symbole, on voit juste le nom. Ouais.
Je pense que pour beaucoup de monde...
Ouais.
La croix gammée, ça évoque vraiment quelque chose, mais peut-être le nom Svastika, pour beaucoup de monde, ça ne veut pas dire grand-chose.
Mm-hmm. Mais par contre, dans une partie de l'article, on va voir tout à l'heure, d'autres croix gammées controversées.
Okay.
Les croix gammées se sont retrouvées sur des monuments, sur des symboles. Même, il y a quelque chose sur Coca-Cola.
Je vous laisse aller. J'arrête d'interrompre.
Alors, depuis la fin de l'année dernière, le bon voisinage a disparu dans le quartier bucolique de Bayview, au bord du lac Pushlinch, en banlieue de Guelph, en Ontario. Certains des résidents se font un doigt d'honneur quand ils se croisent. Ben, c'est ça, ça...
L'harmonie, quoi.
Ben oui, c'est ça qui est dommage, ça... Ou tout simplement s'ignore. Au cœur de la chicane, une rue privée appelée Svastika Trail, ou Chemin de la Croix Gammée. La croix gammée est un symbole de haine et de suprématie de la race blanche, on s'entend tous sur ça, qui est profondément blessant pour plusieurs personnes, explique Randy Gouzard, qui habite la Svastika Trail depuis une quinzaine d'années. La croix gammée représente le pire génocide de l'histoire. Quand je donne mon adresse au téléphone, quand je vais renouveler mon permis de conduire, j'ai toujours droit à un moment de silence. Les gens n'en reviennent pas, dit Gouzard. Monsieur Guzard et sa femme, Audrey, ont commencé à demander que la rue change de nom il y a un peu plus d'un an. Comme la rue était privée, le canton de Pushlinch s'en est au départ lavé les mains, puis a demandé à l'Association des riverains, regroupée au sein de la Bayview's Cottage Association, de tenir un vote à ce sujet. Le référendum a eu lieu début novembre, l'an dernier, et a favorisé de peu, par 25 voix contre 20, le maintien du nom. M. Guzard a par la suite lancé une pétition en ligne sur le sujet pour tenter de persuader le canton de Puchlinch de ne pas tenir compte du résultat du vote. Juste avant Noël, le conseil municipal a voté, par 4-1, pour le respect du résultat du vote de la Bayview Cottagers Association. En avril, M. Guzard a déposé une poursuite contre le conseil municipal de la Bayview Cottage. Bon, évidemment, là, si on est rentré, finalement, on garde le nom, à moins qu'il y ait des changements. Maintenant, je vais vous parler de l'histoire de la Vastiska.
Oui, parce qu'on a dit que ça avait été récupéré par les nazis, mais en fait, ça existait déjà.
Oui. Alors, le nom Svastika est un terme sanskrit de l'Inde, apparaissant pour la première fois dans les épopées Ramayana et Mahabharata. On peut l'analyser comme un mot composé de svasti et du suffixe diminutif ka. Le sens de svasti est bonne santé, bonne fortune.
OK, donc, ouais.
Et puis, de la façon que ça a été utilisé,
ça s'éloigne
dans le
beaucoup
régime,
de ce qu'on a comme perception.
Ben oui. Et c'est aussi une interjection équivalente au français vive.
OK.
Vive la France, vive ça, là. Svastika peut donc se traduire comme ce qui apporte la bonne fortune, ce qui porte chance.
C'est dommage comment les choses peuvent, les perceptions peuvent évoluer. C'est comme le prénom Adolphe qui était probablement populaire avant les années 40. Aujourd'hui, ça a tout changé.
Je connais pas personne qui a le prénom Adolphe.
Ouais, peut-être qu'un jour, le prénom Donald va être prescrit aussi.
Oh mon Dieu, oui. Alors, c'est l'un des plus anciens symboles de l'humanité que l'on retrouve sous plusieurs formes dans la majorité des civilisations du monde, bien qu'il n'ait pas toujours la même signification. Mm-hmm. Les différentes graphies inspirées de la forme du svastika, c'est croix, là, ont pu naître indépendamment les unes des autres, bien que certaines soient liées historiquement. Svastika indien et bouddhique, svastika indien et svastika du 20e siècle en Europe. Les premiers svastikas connus se trouvent en Ukraine, à Mézine, vers 10 000 ans avant Jésus-Christ.
Oh, quand même,
ça va loin, là, hein?
Ça date.
Oui. Alors, et ça a été, donc, la signification et l'importance du svastika varient selon les cultures et les époques. Il peut n'être qu'un signe parmi d'autres, comme les poteries Vinca, ou un symbole religieux prééminent, comme dans l'hindouisme ou le bouddhisme. Là, il est vraiment un symbole prédominant. De nos jours, par exemple, le svastika est utilisé pour marquer les temples bouddhistes sur les plans de villes japonais. Au 20e siècle, les svastikas ont été utilisés par le régime nazi et sont devenus tabous dans le monde occidental. Même le svastika bouddhique pointant vers la gauche, à l'inverse du svastika indien et de la croix gammée. Et oui, parce qu'il y a différents sens.
OK, ouais, j'avais jamais remarqué.
Ça pointe, oui. Mais moi non plus, je l'ai appris avec cet article-là. Des tombes bouddhiques appartenant à des familles hindou-chinoises furent vandalisées après la guerre. Plus récemment, des cartes Pokémon portant un svastika bouddhique durent être retirées de la vente au Japon. La circulation de l'information et l'intérêt accru pour les civilisations asiatiques n'ont pas suffi à réhabiliter le svastika dans le monde occidental. Son interdiction est même proposée au regret des hindous vivant en Europe. Parce que quand on pense que ça date de 10 000 ans avant Jésus-Christ, puis là, il y a juste, durant 20 ans, des gens, un régime qui a récupéré ça.
Complètement changé la perception. C'est dommage, parce qu'effectivement, le message est complètement changé, complètement opposé.
Comme l'indique son nom sanskrit, le svastika est, dans les mythiques orientales, un signe de bon augure. Bien que se retrouvant dans toutes les cultures de l'humanité préhistorique, son utilisation systématique vient de l'Inde, correspondant à la compréhension hindoue du monde, et est donc utilisée aussi par le bouddhisme et surtout par le jaïnisme, qui sont toutes deux des religions d'origine indienne. Il est principalement un symbole cosmique, mettant en scène le mouvement perpétuel de rotation autour d'un point fixe, celui de l'univers qui subit toutes les évolutions, de tous les cycles de la transcendance. Il représente plusieurs forces positives, comme Ganesh dans l'hindouisme, Dieu que l'on invoque pour tout commencement comme étant celui qui écarte les obstacles, parfois représenté sur un lit de svastika. Chez les bouddhistes, il représente la connaissance ésotérique et la roue du dharma. Maintenant, pour terminer, pour le nazisme, Adolf Hitler s'est servi de la croix gammée comme symbole de l'arianisme. Le drapeau nazi comprend une croix gammée inclinée à 45 degrés, comme ça, je vous montre.
OK, dans un cercle.
Ça dépend comment elle est inclinée, ça prend différentes... comme la croix de Saint-André, d'ailleurs utilisée par la 28e SS Division Wallonie, de couleur noire sur un disque blanc exactement au centre d'un drapeau rouge. Elle est alors appelée croix gammée nazie. Après la Seconde Guerre mondiale, en raison de l'importance et de l'extrême violence des crimes perpétrés par les nazis, les représentations de la croix gammée sont évitées comme motif de décoration en Europe, alors qu'avant le nazisme, les frises avec des croix gammées en Europe ne connaissaient évidemment rien de négatif.
Donc, il peut en rester encore à certains endroits.
Oui. L'utilisation de la croix gammée nazie est d'ailleurs réprimée par la loi dans plusieurs pays européens. Alors voilà.
Quelle histoire. Donc, on est de retour et je vous parle de musique comme d'habitude et de musiciens à l'occasion. Aujourd'hui, je vous parle de François Dompierre, un article qui est paru dans La Presse Plus, édition du 14 juillet, dont le titre est « Dompierre, le compositeur libre », écrit par Mario Girard. Je suis toujours impressionné de voir comment autant de petites villes et de villages du Québec arrivent à se constituer, moyennant deux bouts de ficelle, un musée racontant l'histoire de leur coin et de ses bâtisseurs. J'ai vu cette semaine un magnifique exemple de ce travail autour de la mémoire et de l'histoire en allant visiter le musée des communications et d'histoire de Sutton. Installé dans un ancien bâtiment de ferme, l'endroit renferme une foule d'objets qui témoignent du passé de cette charmante ville qui fait partie de la région touristique des Cantons de l'Est. C'est drôle, j'ai toujours pensé que c'était en Montérégie, mais...
Mm-hmm. Ben oui, ben moi aussi, oui.
Cantons de l'Est, Montérégie, les limites sont pas claires, ouais, je pense. Mm-hmm. Je me suis rendu au musée de Sutton parce qu'on y présente cet été une exposition consacrée à quelqu'un qui a longtemps vécu dans la ville, le compositeur François Dompierre. J'ai eu l'occasion de vous dire toute l'admiration que j'ai pour ce prolifique et talentueux musicien lors d'une entrevue que j'ai faite avec lui au moment de la reprise de « Demain matin, Montréal matin » en septembre dernier. Dompierre a gentiment accepté de me rencontrer au musée. C'est donc en sa compagnie que j'ai remonté le fil de sa carrière grâce à des objets, des photos, des partitions et des extraits vidéo qui témoignent de son extraordinaire parcours. Et il en a fait des choses, le petit gars de Hall, à commencer par un nombre impressionnant de musiques de films telles que « Délivrez-nous du mal », X-13, vous souvenez-vous de ça, X-13?
Oui, mais 60. Mon Dieu, je me souviens, je l'ai vu là-dedans. Ah oui, c'était beau, oui. Ça a été un film qui est repassé souvent dans les réunions. Il y a des fans d'X-13.
Effectivement, c'est un film culte.
Oui, film de culte, c'est ça, oui.
Donc, c'est François Dompierre qui avait fait de la musique. Il avait fait aussi la musique de « OK, la liberté ». Mm-hmm. On parle sûrement pas de notre Jean-Sébastien ici. La Gamique, Bonheur d'occasion, Mario, Le Matou, Jésus de Montréal, Le sang des autres, Le déclin de l'Empire américain, Les portes tournantes et plusieurs autres. En regardant ensemble des extraits de ces films, je lui ai dit à quel point j'adorais la musique de « Tiens-toi bien après les oreilles à papa » avec Dominique Michel et Yvon Deschamps et que j'écoute le thème principal pour me remonter le moral. « Ah oui, m'a-t-il dit, étonné. » Ce ne fut pas un très grand film. Jean Bissonnette était le premier à le reconnaître. À la blague, il disait « Bonjour, je suis Jean Bissonnette, le réalisateur qui a fait « Tiens-toi bien après les oreilles à papa ». Je me souviens vaguement, je pense à une petite comédie légère.
Avec Yvon Deschamps, ça je l'ai vu, ouais. Et Dominique Michel aussi, ouais. Je pense.
Début des années 70.
Ah, ça fait longtemps, oui. C'est pas un grand film.
Effectivement.
Mais c'est drôle.
Ne pas se prendre au sérieux et s'entourer de gens qui ne se prennent pas au sérieux, voilà sans doute ce qui a guidé François Dompierre toute sa vie. C'est ce qui explique peut-être sa fidélité à certaines personnes avec lesquelles il a souvent travaillé durant sa carrière. Jacques Godbout en fait partie. Ne demandez pas à François Dompierre de casser du sucre sur le dos d'un artiste. Il en est incapable. En revanche, il sortira ses mots du dimanche pour évoquer les moments qu'il a connus en compagnie de quelques géants, dont Félix Leclerc, Monique Lérac, Pauline Julien et Denis Arcand. Parmi les partitions musicales offertes au public se trouve celle du Petit Concerto de Saint-Irénée, une œuvre qui sera interprétée demain, mais ça c'était le 15 juillet, parce que l'article paraissait le 14, au Domaine Forget dans le cadre d'un concert qui rendra hommage à François Dompierre. Le concert sera repris, par contre, le 22 septembre à la Salle Bourget. C'est l'orchestre de chambre McGill et le pianiste Shirley Salov qui interpréteront cette œuvre en la présence du compositeur qui se permettra quelques incartades durant le concert. Moi, je ne joue pas ça, c'est trop compliqué, me dit Don Pierre en riant. Je lui demande alors si c'est possible pour un compositeur d'écrire pour un instrument dont il ne joue pas ou qu'il maîtrise mal. Tout en m'expliquant que c'est tout à fait possible, il se met au piano qui trône au milieu de la salle d'exposition et se met à me jouer un extrait de Pavane pour une infante défunte. Ravel la jouait comme cela au piano, me dit-il. Il joue le thème de l'œuvre comme le ferait un enfant de 8 ans. Ce sont les grands musiciens qui ont ajouté cette intériorité qu'on lui connaît aujourd'hui, explique-t-il. Plusieurs fois au cours de notre discussion, Don Pierre ne pourra s'empêcher d'aller vers le piano pour illustrer ses propos. Ma force a toujours été l'improvisation. J'ai toujours aimé ça. Je faisais damner mes professeurs avec ça lorsque j'avais 8 ans. On m'apprenait une pièce et je la jouais à ma façon. Parlant de son enfance, on voit dans l'exposition un extrait d'une partition de La Petite Cantate de Noël, une œuvre qu'il a composée à la demande de son père lorsqu'il avait 12 ans. Mmh. Quand même, un petit génie, je pense.
Petit Mozart.
On peut dire ça. Plus loin, on voit la pochette de son premier disque en tant que chanteur. J'avais signé avec Select. Charlebois, Les Tourneaux et moi avons lancé tous les trois un disque la même année, en 1964. Il est évidemment question du disque sur lequel figure son immense succès « Saute-mouton » et de la pièce « Les Glorieux » qu'il a composée à l'occasion du centenaire du Canadien de Montréal et qui a été interprétée en 2008 par l'OSM sous la direction de Kent Nagano. Une mémoire vitrée renferme les trophées et médailles reçus au fil des décennies. Disons que le présentoir est bien rempli. Toutes les récompenses font plaisir. Elles compensent les claques sur la gueule que l'on reçoit parfois. Mon problème, c'est que je n'ai jamais été à la bonne place pour certaines personnes. J'étais trop sérieux pour les populistes ou trop populiste pour les élitistes. Mais ce qui compte, c'est que j'ai fait ce que j'ai voulu. François Dompierre, homme libre, compositeur libre, c'est une évidence. Ça se voit. Et ça s'entend surtout. L'exposition, donc, François Dompierre, 50 ans de musique, au Musée des communications et d'histoire de Sutton jusqu'au 8 octobre. Et comme j'ai dit tantôt, François Dompierre, c'est à la salle Le Bourgis, le 22 septembre à 19h30.
peut-être une des pièces les plus connues de François Dompierre. On aura sans doute reconnu Saute-Mouton.
Effectivement, ça jouait beaucoup. Je pense que c'est au courant des années 70. Donc, Serge, on revient avec la svastika.
Oui, la svastika, oui. En fait, c'est un complément d'information sur Push Lynch, pour dire un peu comment tout ça a commencé, comment ça a évolué. Et également, il y a d'autres croix gammées controversées, même au Québec.
Ça nous aurait échappé, on les a pas
vues. Oui. On veut peut-être pas les voir, non?
Probablement.
Alors, dans cette suite, Mathieu Perrault, ça s'intitule « De plage à banlieue dortoir ». Le lac Push Lynch a commencé à attirer les foules à la fin du 19e siècle, le dimanche pour la plage. Il y a des photos ici dans l'article, c'est vraiment un endroit bucolique. Hein? Mm-hmm. C'est charmant, on voudrait aller demeurer là pour le... Si on avait un chalet. Mais ces dernières années, des demeures cossues y ont été construites pour des navetteurs travaillant à Toronto, parce que c'est tout près de Toronto.
Okay.
Alors, portrait d'une communauté en transition. Alors, il y avait une plage svastika, avec un svastika beach, un endroit, un bar appelé, une salle appelée svastika beach.
Mais ça, c'était quand même... Dans les années 20,
oui,
c'était avant.
Oui. Des salles de danse attiraient les villégiateurs des petites villes voisines depuis la fin du 19e siècle au bord du lac Push Lynch. En 1927, un entrepreneur de la région, Russ Barber, a fondé un terrain de camping et un restaurant avec piste de danse qui formait la station balnéaire Svastika Beach, selon le livre Push Lynch Lake and Its Past, publié en 2002 par une historienne amateur, Anna Jackson, aujourd'hui décédée. À son apogée dans les années 40, la station balnéaire couvrait tout le nord-est du lac avec un petit zoo, des tours de bateaux, un terrain de jeu et des chalets saisonniers, une petite ronde. En 1941, M. Barber l'a renommé Barber Beach à cause de la guerre.
Ouais.
Et à partir des années 60, des lots ont été vendus pour y construire des maisons en bonne et due forme. La dernière portion de Barber's Beach a été vendue à un promoteur immobilier en 1999 par sa petite-fille et a été transformée en une petite banlieue dortoir aux luxueuses maisons. Faut juste préciser que le Svastika Trail, là, c'est un bout de rue. Là. C'est pas,
oui, c'est
pas une rue.
C'est pas une artère principale.
2000 maisons, non. Mais c'est ce qui embête, c'est les gens qui demeurent là et considèrent que c'est le dernier vestige.
Étant donné qu'il y a vraiment eu une vie avant la Deuxième Guerre mondiale,
oui,
on peut
ça.
Presque dire que le parti de Hitler a en fait de l'appropriation culturelle. Là,
ah, absolument, oui. Il y a de quoi, on pourrait jaser longtemps sur ça. Alors, le canton de Push Lynch n'est pas le seul endroit où des croix gammées ont suscité la controverse. Une ville du nord de l'Ontario s'appelle Svastika. Ça, c'est plus gênant.
Oui,
la ville.
La ville au complet.
Et des pièces de musée portant des croix gammées sur des artefacts doivent régulièrement être remisées à la suite de plaintes. Pointe-aux-Cascades.
Mm-hmm.
C'est ici, ça, Pointe-aux-Cascades?
Oui, pas loin, dans l'ouest.
Des encres anglaises de la marque Byers, fabriquées au début du 20e siècle, équipaient des navires transportant marchandises et passagers sur le canal de Soulanges jusque dans les années 60. Elles sont maintenant exposées dans le parc des encres de Pointe-des-Cascades près de Vaudreuil. Le hic, certaines d'entre elles arborent une croix gammée. Je vous ai montré tout à l'heure.
Oui, mais donc ça n'a pas rapport du tout avec les nazis.
Ah non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. C'est comme une marque de commerce. Le X, ben, puis comme on disait que c'était ça avait un côté très positif, la croix gammée.
Oui,
donc
c'est un logo qu'on n'avait pas
utilisé à l'époque. Le X, certaines d'entre elles arborent une croix gammée qui était un symbole de paix avant qu'Adolf Hitler s'en empare dans les années 20. L'an dernier, une ONG montréalaise, Erasing Hate, spécialiste de l'enlèvement des graffitis haineux, a tenté de recouvrir les croix gammées de peinture noire. J'ai pas entendu parler de ça, moi. Dans le nord de l'Ontario, la ville et la mine Svastika, dans le nord de l'Ontario, ont été fondées en 1908. La mine a fermé en 1947, mais la ville a conservé son nom jusqu'à la fin du siècle, quand elle a été fusionnée avec la ville de Kirkland Lake. Et ce, malgré une tentative infructueuse du gouvernement de l'Ontario dans les années 40 pour la renommer Winston en l'honneur de...
Monsieur Churchill.
Churchill. La ville de Berlin, elle, Berlin ici au Canada, pas Berlin.
pas Berlin.
pas, qui a été divisé pas la ville de Berlin en Allemagne, oui. La ville de Berlin, elle a accepté de changer son nom pour Kitchener. Ah, Kitchener,
ah,
c'était Berlin avant.
Donc, ouais. Ah, je savais pas.
Ben, moi non plus. Le nom Svastika subsiste encore toutefois. La gare de passagers, qui dessert notamment Rouyn-Noranda, s'appelle toujours ainsi.
Ah, ça ben, non oui. plus, j'avais jamais entendu parler.
Ironiquement, Svastika est le lieu de naissance de l'une des militantes pro-nazis britanniques les plus connues, Unity Mitford. Arizona. Les Navajos de l'Arizona ont incorporé des croix gammées à leur iconographie traditionnelle. Les panneaux routiers de l'État arboraient ce symbole jusqu'en 1942, quand le gouvernement fédéral a décrété qu'il s'agissait désormais d'un symbole nazi. Au départ, c'était un symbole d'une fable Navajo, un canot en bois pris dans des tourbillons, explique Stephen Heller, l'auteur du livre « De Svastika ». Maintenant, en tout dernier, la croix gammée à toutes les sauces. Grâce à un engouement pour la spiritualité indienne, la croix gammée a été fort utilisée en Occident voilà une centaine d'années, selon Stephen Heller. Il y a eu une pub de Coke, des médailles pour les scouts, un bataillon de l'armée américaine, les Thunderbirds, qui avaient adopté la croix gammée parce que ces soldats venaient des quatre États contigus. On la retrouve même dans un chef-d'œuvre de la littérature américaine, dans le roman « The Great Gatsby » de Francis Scott Fitzgerald, paru en 1925. La firme de l'un des personnages s'appelle « Svastika Holding Company ». Et regardez Coca-Cola, je vous montre. « Drink Coca-Cola avec la croix gammée ». C'est ça se vendait 5 sous la bouteille.
Ah oui?
Ça fait un petit bout de temps. Hein,
quand même.
C'est rendu combien de coke aujourd'hui?
Idée, je bois pas de coke, mais non, non plus. C'est probablement au moins 10 fois plus cher.
Alors voilà, on en sait un peu plus sur les origines
et
de la
Svastika. Et en même temps, ça met fin à la première partie de l'émission. On prend une courte pause et on vous revient dans quelques instants.
Écoutez les voix de service.
Pendant que les aiguilles avancent. change la cadence, faut se rendre à l'évidence. Quand on t'ensemble la danse de la dernière chance, il faut que dans les yeux s'allume le feu de la conscience. Il faut que dans les yeux renaisse le bleu de la confiance. Change la cadence, faut se rendre à l'évidence. Quand on t'ensemble la danse de la dernière chance, change la cadence, faut se rendre à l'évidence. Quand on t'ensemble la danse de la dernière chance, change la cadence, faut se rendre à l'évidence.
La formation Mes aïeux qu'on vient d'entendre avec la pièce Le déni de l'évidence s'est tirée de leur album paru en 2008, La ligne orange.
La ligne orange. Oh, ah, voilà le lien. C'est quel hasard.
Toute une coïncidence.
Oui,
hein?
Toute une coïncidence. Parce que je vais vous parler, je vous parle toujours de musique ici. Mm-hmm. Je vous parle souvent d'un musicien connu. Mais là, aujourd'hui, je pourrais vous parler de musicien probablement inconnu. Un article qui est paru encore dans la presse plus qui s'intitule « Métro de Montréal », peut-être pas seulement sur la ligne orange, mais « Métro de Montréal, un avenir incertain pour les musiciens ». Ça vous est sûrement déjà arrivé de voir des musiciens dans le métro.
Oui, bah oui, oui, on passe toujours, ça, j'adore,
oui,
ça.
Mais souvent, la plupart du temps, quand on passe là, c'est parce qu'on est pressé.
Oui, bah oui.
Mm-hmm. Ils entendent deux secondes, puis on passe en courant. Donc, les musiciens du métro de Montréal déplorent que des changements soient en voie d'être apportés au système leur permettant de se produire dans les stations de la ville, et ce, sans qu'ils soient consultés. Mm-hmm. Malgré les efforts pour susciter une discussion, le regroupement des musiciens du métro de Montréal affirme qu'il n'a reçu aucune information au cours des derniers mois de la part de la Société des transports de Montréal, la STM, quant à la façon dont s'organiseront les prestations musicales à l'avenir. On sait qu'ils, les responsables de la STM, veulent instaurer un nouveau système, mais ils ne nous en parlent pas, explique Clément Courtois, porte-parole du regroupement. Des membres se sont présentés à deux reprises, en mai et en juin dernier, au conseil d'administration de la STM pour faire valoir la nécessité d'être inclus dans les démarches si un nouveau système devait être adopté. Mais bien qu'on leur promette qu'ils seront contactés ultérieurement, ils restent depuis sans nouvelles, ne recevant pas même un coup de fil, a affirmé M. Courtois. Les musiciens craignent par-dessus tout de se voir imposer à la rentrée un nouveau système qui ne leur conviendra pas. Depuis trois décennies, afin d'assurer une meilleure cohésion, les premiers musiciens arrivés aux stations de métro, souvent avant l'ouverture, conviennent des heures où ils s'exécuteront ce jour-là, chacun s'inscrivant selon l'ordre des arrivées sur les lieux. Les premiers ont les meilleurs horaires et chacun respecte les plages de 2 heures qui leur sont imparties. On pense pas à ça, genre de détail-là qu'on voit musicien dans le métro, mais il y a un petit peu d'organisation quand même derrière tout ça. Comme ça, tout le monde peut jouer et ça se fait de manière fluide, a expliqué M. Courtois, qui appréhende un système d'inscription en ligne, des inscriptions payantes ou même des auditions pour avoir accès aux emplacements autorisés. Ça réduirait l'accessibilité et la liberté d'expression des musiciens. De son côté, la STM a déclaré qu'il n'y avait pas de décision prise. Nous visons à mettre en place une solution pour 2019 qui bénéficiera autant aux musiciens du métro qu'aux clients et aux équipes de la STM, a indiqué à la presse Philippe Derry, responsable des affaires publiques de l'organisme public, dans un courriel, tout en précisant que pour toute forme d'activité culturelle ou autre, la STM reste responsable de ce qui se passe dans ses installations et ses règlements s'appliquent. Donc, Serge, on continue avec...
Maintenant, histoire de rue. Mm-hmm. C'est dans la revue L'Itinéraire que j'achète, moi, presque à chaque parution. Là. J'aime bien cette revue-là. Et puis, ça encourage les gens qui y travaillent, là, les camelots. Alors, c'est la revue du 1er juillet. Alors, c'est un article d'Isabelle Beaupré, qui est camelot au centre d'achat Domaine, Sherbrooke et L'Angelier. Il n'y a pas de féminin pour camelot, hein?
Il y a un mot qui existe,
ben oui,
je ne pense pas que ça soit utilisé
non,
pour ça.
Non, c'est ça, ben oui.
Pas flatteur.
Non, c'est ça. Alors, tout le monde connaît notre très beau marché Maisonneuve. Tout près de la rue Ontario se trouve également l'avenue Morgan, un musée à ciel ouvert, une petite rue d'à peine 500 mètres. Alors, permettez-moi de vous inviter à découvrir à travers cet article ce petit coin d'histoire. Une visite dans le passé vous y attend, ainsi que de belles découvertes architecturales d'hier à aujourd'hui. Avez-vous connu le Morgan, ça vous dit quelque chose, Daniel?
Je me souviens vaguement.
Jean-Sébastien,
où c'était?
Morgan, Jean-Sébastien, ça vous dit quelque chose?
Absolument. Capitaine Morgan?
Ah, je savais non, que non, ça non.
Virait. Vous êtes trop jeune, vous êtes trop jeune, Jean-Sébastien, c'est pour ça. Mais vous connaissez le magasin Labbé, par exemple, Jean-Sébastien?
Mais oui.
Ah là, ben le magasin Labbé, avant, s'appelait Morgan.
Ah!
Ah, 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 ah.
Donc, à l'avenir, vous allez peut-être boire du Capitaine Labbé à la place.
Alors... l'avenue Morgan. Cette rue porte le nom de Morgan en l'honneur de la famille Morgan et particulièrement de James et Henry Morgan. Bon, vous connaissez l'abbé, qu'on vient de le dire. Mm-hmm. Eh bien, avant 1972, c'est en 1972.
Ah, OK, on cherchait l'année tantôt.
Ce magasin portait l'enseigne Magasin Morgan. Et voyez la belle image.
Oui, et ça, c'est sur Sainte-Catherine face à Square Phillips.
Oui, oui, oui. Ouais. À un coin de rue de l'ancien Yétune, maintenant, qui est les ailes de la...
C'est toujours les ailes de la... fermé aussi.
Fermé, moi, je suis bien en retard dans ça. Là, ouais. De son vivant, James Morgan habitait à Maisonneuve, aujourd'hui Hochelaga-Maisonneuve, dans un manoir de 29 pièces.
Oh boy, est-ce que c'était lui, le capitaine Morgan? Non,
non je ne penserais pas. Là. Soyez sérieux. Une émission sérieuse.
Oui, c'est vrai. Oui, j'avais oublié.
Cependant, si vous passez par là, vous ne le trouverez pas. Le manoir ayant été détruit et remplacé par un kiosque à musique et des Vespasiennes.
Ah.
Vers 1800...
Aucun commentaire, c'est beau.
Mais c'est ça, je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce non. que c'est? Vers 1885, après la mort de James Morgan, son fils du même nom permettra la création des nouvelles rues Sainte-Catherine, La Fontaine, Adam et Ontario et de la rue Morgan en 1913 en créant des parcelles sur la terre familiale. Alors, avant 1883, la ville d'Hochelaga décide de s'annexer à sa voisine. Mais certains ne l'entendent pas ainsi. De riches bourgeois avec à leur tête Alphonse Desjardins, fondateur des caisses populaires, et Joseph Barsalou, le savon Barsalou, homme d'affaires, qui est également homme d'affaires et politicien montréalais, décide alors de fonder un Westmount francophone, la ville de Maisonneuve, qui ne compte pas plus de 300 habitants.
L'élite,
oui. Ce projet prendra rapidement de l'expansion et verra les usines et la classe ouvrière se multiplier. Aujourd'hui, le quartier est surnommé le Pittsburgh du Canada.
Ah oui?
Ça, je ne savais pas.
Moi non plus. On en apprend des choses ici quand même.
Oui. La rue Morgan est un modèle. La rue Morgan compte donc plusieurs beaux bâtiments et un aménagement particulier qui représentait pour ses fondateurs un modèle de ville parfaite. Le style « City Beautiful ». Il emprunte à l'école des beaux-arts les principes d'ordre, d'harmonie et de dignité. Les formes, quant à elles, sont d'inspiration néoclassique. À travers ces constructions, on peut alors remonter une ligne du temps architectural assez extraordinaire qui représente des décennies de la vie montréalaise dans des styles et designs diversifiés. Par exemple, rue Sainte-Catherine, nous retrouvons des multiplexes art déco. Plus au nord, des maisons unifamiliales style anglais, puis d'autres multiplexes et enfin, vers la rue Ontario, se trouvent des triplexes et escaliers typiques de Montréal. Bon, trois endroits, Marché Maisonneuve, Petit Baigneur et Ben Morgan. Le Marché Maisonneuve que l'on connaît aujourd'hui a été pensé dans la même lignée que le City Beautiful. On y retrouvait des fruits et légumes de saison à l'extérieur du marché. Il a été le premier marché de Montréal à être équipé d'un réfrigérateur pour les denrées périssables. Et le marché Maisonneuve, maintenant, a été remis à la mode parce que c'est assez beau comme installation. C'est pas aussi gros que Jean Talon, je pense, mais c'est un très beau marché.
Il s'appelle marché Maisonneuve, mais c'est celui qui est situé sur la rue Ontario, dans l'Est.
Près de Pinneuf, tout près de Pinneuf. Les petits baigneurs. Saviez-vous que les petits baigneurs, la fameuse sculpture qui représente trois garçons, était à son installation? Je vous la montre, elle est ici, Daniel, petit baigneur. Était à son installation l'une des plus hautes statues de bronze du Canada.
Oh, non.
Créée par Alfred de la Liberté, rien de moins, la légende dit qu'elle aurait été faite en l'honneur de la toute première famille de Ville-Marie. Ensuite, le Ben Morgan, une institution dans ce quartier. Entre 1905 et 1930, les habitants de Montréal n'avaient pas l'eau courante.
Ah.
Ouais. La ville décida donc d'ouvrir 12 bains publics à Montréal, dont le bain Morgan, inauguré en 1916. De style beaux-arts, ces colonnes, que l'on doit également à Alfred la Liberté, rappellent les thermes romains. Avec l'arrivée de l'eau courante, les gens ont délaissé les bains publics et le bain Morgan a trouvé une nouvelle utilité, servir de résidence à la police jusqu'en 1960. Aujourd'hui, le bain est une piscine publique. Alors, l'avenue Morgan a été appelée date de désignation en 1913. La longueur de la vue, c'est 500 mètres. C'est pas...
Un demi-kilomètre.
Ouais,
hein.
C'est ça, oui, c'est ça. C'est gentil. Mais assez pour une petite visite à pied.
Ouais.
La rue Ontario, par contre, désignation, à très loin, 1847.
Quand même.
La rue s'est appelée également rue Napoléon, rue Arthur-Buis et rue Berthelet. L'origine du nom, bien évidemment, facile à comprendre, l'un des trois grands lacs canadiens, mm-hmm. le lac Ontario. La longueur de la rue, 6,1 km.
Ouais, quand même.
Assez long, parce qu'elle commence presque à la Place des Arts, dans le coin de la Place des Arts. Parce qu'à un moment, ça change de nom. Hein.
Ben, y a un bout que c'est Kennedy. Président Kennedy.
C'est ça,
ouais.
Ouais. Mais elle prend Ontario, je pense, à partir de Saint-Laurent, quelque chose comme ça.
Il y a eu des rénovations dans ce coin-là, ça a changé. Là.
Je dirais Saint-Laurent, là, sans, je pense, risquer de me tromper. Puis ça va jusqu'à... Parce que ça dépasse Pie-Neuf, je pense.
Je pense que oui, ça va pas mal loin dans l'Est, quand même.
Ouais. Alors voilà, alors c'est ça. Alors voilà, petite histoire.
Donc, je vous ai parlé tantôt de musiciens, un musicien très connu, un compositeur, après ça, des musiciens moins connus dans le métro. Je reviens avec un musicien qui est quand même assez connu aussi, Grégory Charles, qui va quitter apparemment le Festival de la Naudière.
En effet, j'ai lu ça. Ouais. J'ai lu ça, ouais.
Grégory Charles quittera la direction artistique du prestigieux Festival de la Naudière. L'artiste et homme d'affaires renoncera à ses fonctions à la fin du Festival de musique classique qui se poursuit comme prévu jusqu'au 5 août à Joliette. C'est bien le cas, il quittera ses fonctions de directeur artistique du festival, a confirmé à la presse France Gagnard, relationniste de presse pour le Festival de la Naudière. La 41e édition du Festival de la Naudière bat son plein jusqu'au 5 août à l'amphithéâtre Fernand Lindsay de Joliette. Grégory Charles assurera ses fonctions jusqu'à la fin de l'édition 2018, après quoi l'organisation lui cherchera un successeur. Grégory n'accorde... Moi, il y a bien des rires là-dedans. Ça me prendrait une autre gorgée d'eau. Grégory n'accordera pas d'entrevue à ce sujet d'ici à la fin du festival, car il met toute son énergie sur le festival, a répondu son attaché de presse, Cindy Blanchette, hier. Selon Mme Gagnard, l'artiste a pris cette décision pour des raisons familiales et personnelles, lui qui aurait revu ses priorités au cours des derniers mois. Avec tout ce qui s'est passé dans sa vie récemment, notamment le décès subi de son père l'hiver dernier, il a décidé de donner sa démission et de se concentrer sur ses projets personnels. Le père de Grégory Charles, Lennox Charles, est mort tragiquement en janvier dernier à la suite d'un accident impliquant un tracteur de déneigement à Montréal. On se souvient de ça.
Ben oui.
Et sa mère était morte un an plus tôt. Dans une entrevue donnée à Radio-Canada en avril, M. Charles a confié que ces événements avaient influencé sa perception de la vie et qu'il songeait à apporter des changements à la sienne. Je pense que oui, hein, c'est un choc assez sérieux par des parents, surtout dans ces circonstances-là.
Surtout à un an de...
À l'intérieur d'un an. Ça remet les priorités aux bons endroits. Je suis au moment où ce n'est pas tant que je veuille ralentir que de courir moins de courses en même temps. Et je pense que la vie me donne tous ces indices-là en même temps. Les deuils qu'on vit, ça sert aussi à ça. Mes parents, que je pensais éternels, ne l'étaient pas. J'ai un peu envie de ralentir certaines courses pour laisser davantage de la place à la fête, à la célébration. J'ai une fille de 6 ans. C'est fantastique ce qu'elle veut faire, ce qu'elle apprend, ce qu'elle est. Je n'ai pas envie de manquer ça non plus. Alors, ce n'est pas tant que j'ai envie de ralentir, j'ai envie d'en faire un peu moins, avait-il expliqué. Le chanteur, pianiste et animateur avait repris les rênes de la direction artistique du Festival de musique classique de Joliette au printemps 2017 et succédait ainsi à Alex Benjamin. Il avait expliqué son intérêt pour ce poste par le sentiment d'être dans la continuité du regretté Père Lindsay, fondateur du festival. « J'ai connu le Père Lindsay en allant à son camp musical », avait-il raconté à la presse lors de sa nomination. « En dehors du fait que nous ayons tous les deux la foi, on a des choses en commun, comme d'avoir dirigé des chorales, d'aimer travailler avec les jeunes, de lancer des festivals, d'être passionné de musique. » La programmation de 2017 avait été principalement prévue par son prédécesseur, ce qui fait de l'édition actuelle la réelle première programmation de Grégory Charles à titre de directeur artistique. J'ai voulu donner un thème qui se résume par l'expression bien connue « à l'amour comme à la guerre ». L'amour et la guerre, deux réalités qui ont inspiré presque toute la musique, sinon l'art au grand complet, explique-t-il sur le site internet du festival. La décision de Grégory Charles n'influence en rien la programmation de cette année, assure la relationniste du festival. Tous les concerts auront lieu, y compris celui dirigé par le violoncelliste Stéphane Tétrault le 29 juillet et ceux de l'Orchestre métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin les 4 et 5 août. Donc, Serge, on revient avec des cols.
Des cols, oui, c'est dans la presse de dimanche. C'est l'équipe de journalistes qui a préparé des cols pour les lecteurs de la presse. Alors, nous allons voir si vous serez collés, vous, Daniel, ainsi que Jean-Sébastien et Jean-François en studio. Jean-François qui donne un coup de main à Jean-Sébastien aujourd'hui.
Et c'est bien apprécié.
Alors, voilà, écoutez bien. Je vous pose une question et je vous donne quatre choix de réponse et vous. Alors, le tout doit être fait très, très sérieusement, hein, s'il vous plaît. Quelle est la plus grosse tortue du Québec? Géographique? B. Pinte? C. Leonardo? D. Serpentine?
Ça, c'est des noms de tortues, ça.
Non, de tortues.
OK. Alors. Ça nous aide beaucoup.
La tortue géographique, la tortue pinte, la tortue Leonardo, la tortue serpentine.
Je pense que Jean-Sébastien le sait.
moi, je vais éliminer Leonardo parce que ça, c'est les Ninja Turtles. Ouais, effectivement. Je pense pas qu'elle est québécoise. Je pense que c'est New-Yorkais. Je vais y aller avec la deuxième réponse. C'était quoi?
Géographique, peinte.
Peinte. Je vais avec peinte.
Et
Jean-François. OK, je vais aller avec serpentine d'abord. Ça en prend un qui gagne.
Jean-François.
Géographique.
C'est serpentine.
Ah!
Ouais. Non seulement la tortue serpentine est la plus grosse au Québec, avec une carapace pouvant atteindre 50 cm, mais c'est la plus primitive. Elle a des écailles triangulaires sur la queue qui donnent l'impression d'être des piquants.
Ah.
Deuxième question. Quel est l'aliment favori du caribou en hiver? L'écorce des arbres, les lichens, les cocottes de sapin, la neige fraîche.
La neige, c'est pas très nourrissant, tant qu'à moi. Hein.
L'écorce.
L'écorce des arbres.
J'y vais aussi avec l'écorce.
Non, mais je vais aller avec le lichen d'abord, parce que là, il faut quand même pas être d'accord.
C'est le lichen.
2-0, les gars, désolé.
Le lichen. Moi, j'ai dit lichen.
Pas de ma faute si j'ai du talent.
Le lichen. Le lichen résulte d'une symbiose entre un champignon et des cellules contenant de la
chlorophylle. Voilà, une pizza aux
champignons.
Comme
des algues.
Oui, oui, voilà.
Il peut se développer dans des milieux hostiles. L'été, le caribou complète son régime avec de la verdure fraîche. Comment s'appelle la femelle du singe? La singerie?
Hey, là! Soyez sérieux, on en voit plein, mais pas nécessairement.
La singerie. La singesse. La singe. La guenon.
La singe.
Mais
La singerie, la singesse, la singe, la guenon.
Ben, il me semble que j'ai toujours entendu la guenon, mais c'est gorille ou singe?
Guenon, c'est gorille, il me semble.
Ouais. Je vais dire la guenon quand même, parce que je suis pas sûr qu'il y a un féminin pour toutes les...
C'est
les
la guenon. Ouais.
Hey, Daniel, en feu ce matin?
Yes! La femelle du singe et la guenon, elle fait peut-être des singeries, mais ça n'a rien à voir.
Bon.
Quel est le seul oiseau au monde qui peut voler à reculons?
À reculons, ouais. Ça, ça m'impressionne. J'aimerais s'en voir un.
Oui, alors vous avez le choix entre le colibri, le faucon, ah, le martin-pêcheur et aucun oiseau ne peut voler à reculons.
Quoi de... Ben moi, je dirais le colibri parce que j'en ai déjà observé puis ça vole comme une guêpe. Ça fait sur place, je me semble, à moins que j'ai halluciné, il me semble qu'ils peuvent reculer.
Moi, je vais essayer d'avoir un point, fait que je vais dire comme Daniel, le colibri.
Mais c'est vrai, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des colibris, mais c'est assez hyperactif. Là, ça vole pas comme un oiseau, ça vole comme une guêpe.
Jean-François, risquez-vous quelque chose?
Je tente le martin-pêcheur.
Ah bon? Ben non, la réponse, c'est A, le colibri.
Yeah! Ouais.
De tous les oiseaux sur la Terre, et on en compte des centaines de milliers, évidemment, un seul vole à reculons, le colibri. Mieux, il sait même faire du surplace.
Oui, voilà. Ben oui, quand on observe longtemps, là, on peut les voir.
Le secret réside dans ses ailes, qui battent à la fois de haut en bas et de l'avant vers l'arrière, à un rythme fou pouvant aller jusqu'à 80 battements par seconde.
Ah oui, on ne les voit pas, les ailes. C'est comme un insecte.
Question suivante. Combien y a-t-il de requins pêchés et consommés par les humains chaque année? A, 5. B, 50 000. C, 50 millions. D, 100 millions.
Combien de requins pêchés?
Ouais. 5 par année.
Consommés 5, c'est pas beaucoup.
Par les humains chaque année. 5, 50 000, 50 millions, 100 millions.
Ben, c'est sûr qu'il y a peut-être des endroits sur la planète où c'est plus populaire, ouais. Mais...
Je serais porté à dire 50 000, donc je vais ne pas me fier à mon instinct et dire 50 millions.
Moi, j'allais dire 50 millions, je vais y aller avec 50 000.
Okay. Bon, je vais dire 100 d'abord.
Ben, écoutez, figurez-vous que c'est 100 millions.
D'accord.
C'est assez... C'est assez surprenant.
C'est quoi le prix qu'on gagne à la fin?
Il restera plus de requins, ça plaît.
L'honneur.
Mais 100 millions, c'est beaucoup quand même. Je sais qu'il y a certains pays asiatiques où ils consomment beaucoup de ce genre de... Je suis jamais allé, là, mais j'ai lu ça. Donc.
À noter qu'en moyenne, seuls 5 humains par année sont mangés par les requins.
Donc, c'est pas très juste, finalement.
Source sans info insolite sur les aliments, édition Osborne. Je me disais que 100 millions de requins.
Ça en fait du poisson, ça.
Oui, c'est en tout cas bon. Pendant combien de temps les lionceaux se nourrissent-ils exclusivement de lait maternel? Ah, c'est intriguant. Seulement un jour, ils dévorent des gnous et des zèbres dès l'âge de 2 jours.
Ah,
une semaine, puis ils mordent la lionne qui se fâche et cesse de les allaiter. Bon.
Ils ont déjà des dents après une semaine.
Oui. De leur naissance jusqu'à l'âge de 3 mois environ, ou 1 an, si bien qu'à la fin, la lionne doit manger 2 zèbres par jour pour produire assez de lait.
Non, là, c'est...
Voulez-vous que je redise les réponses, là?
3 mois.
De leur naissance jusqu'à 3 mois?
Mais je serais porté à dire que ça a de l'allure quand même, parce qu'un jour, ça n'a pas de sens, là. Même une semaine, il semble que...
Un jour, il dévore des gnous. Une semaine, après une semaine, il mord de la lionne pour qu'elle se fâche. Et de leur naissance jusqu'à l'âge de 3 mois, il mangerait des...
Jean-François?
À 1 an, si bien qu'à la fin, la lionne doit manger 2 zèbres par jour pour produire le lait, pour produire assez de lait.
Moi, j'y vais comme Daniel.
OK. Ben là, ce coup-là, je voyais comme Jean-Sébastien parce que moi, j'ai pas d'enfant, je connais pas ça. Là, on va dire 3 mois. J'ai pas de lion non plus.
Alors, c'est effectivement. Voilà. Les lionnes sont des mères très attentionnées.
OK, ben oui, c'est bien.
Elles allaitent leurs petits en plus d'assurer leur éducation et leur sécurité. Source Cœur de Lion d'Emmanuel Lauzon.
Ben, score parfait, Daniel.
Merci beaucoup. Étant donné qu'on n'a pas eu le temps de voir toutes les questions, effectivement, score parfait, ça aurait pu se gâcher. Et c'est ce qui met fin à l'édition du 18 juillet de Les Voix de service. On vous retrouve mercredi prochain avec probablement Isabelle Falardeau au micro avec nous et Serge qui tape
dans son micro.
Ne vous en faites pas, n'ajustez pas votre appareil. C'est ici que ça s'est passé. Donc, on vous souhaite une bonne journée tout le monde et on vous retrouve, nous, mercredi prochain. Et dans quelques minutes, c'est le quotidien des quotidiens avec Hélène Denis.